Chers auditeurs de Radio Maria, nous sommes avec nos invités Laurent Valu et Nicolas Revenu qui vont nous parler aujourd'hui dans le cadre de notre émission sur les sujets familiaux avec les AFC de la représentation de la défense des consommateurs au sein des AFC. Laurent Valu, Nicolas Revenu, bonjour.
Bonjour. Bien, je vais donner la parole d'abord à Nicolas Revenu qui va vous exposer en général ce que sont les associations de défense des consommateurs.
On va vous parler de consommation. Depuis la CNAFC, la Confédération nationale des associations familiales catholiques, on va vous présenter un peu l'activité d'association de consommateurs de notre confédération. Parce que, on ne le sait pas toujours, mais la CNASC est l'une des 15 officielles grandes associations de consommateurs nationales. Alors, la question peut se poser de savoir qu'est-ce que c'est qu'une association de consommateurs, d'abord, et puis à quoi ça sert. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une association de consommateurs ? Eh bien, c'est une association, d'abord, que pour avoir droit à cet intitulé, à ce titre au sens plein, il faut être reconnu par la puissance publique. C'est-à-dire qu'on dépose un dossier dans lequel on fait la preuve de notre représentativité. Et notre représentativité, eh ben, c'est le fait que nous avons un nombre significatif d'adhérents. Il faut en avoir plus de 10 000, c'est bien sûr tout à fait notre cas. Et puis, il faut avoir une activité en tant qu'association de consommateurs qui est une activité constante et importante. Alors, à ce titre-là, il faut faire de l'éducation et de la formation et de l'information du consommateur. Alors, d'abord, une première remarque, c'est qu'il faut s'adresser à tous les publics. C'est-à-dire qu'on n'est pas une association destinée à ne nous adresser qu'à nos adhérents, à ne parler qu'entre nous, etc. On est bien officiellement chargé de parler à tout le monde, à toutes les familles et à tous les consommateurs, évidemment. Donc, à ce titre-là, on est un peu comme dans la position des syndicats de salariés. Ils sont reconnus par les pouvoirs publics et ils sont représentatifs pour un certain nombre d'entre eux, quel que soit le nombre de votants qu'ils aient, quelle que soit la situation dans laquelle ils sont sur la liste des syndicats qui représentent traditionnellement et officiellement tous les salariés. Eh bien, nous, c'est pareil. On est sur la liste des associations qui représentent officiellement tous les consommateurs. Donc, on fait de l'éducation pour tous, et à ce titre-là, on peut intervenir dans les écoles, par exemple, et les associations locales, les AFC, peuvent très bien, si elles ont un bon contact avec l'école, venir faire des prestations, présenter l'activité, et notamment l'activité d'association de consommateurs. Et puis, on fait de la formation aussi. Et la formation, c'est plutôt destiné aux adultes. Alors là aussi, on fait de la formation des membres adhérents, de ceux qui animent l'association. Et puis, on fait également de l'information. Ça, c'est encore plus important, parce que la Confédération est bien outillée pour faire ça. On a effectivement nos journaux, et puis on a nos sites, le site Internet ou le site intranet. La différence entre l'un et l'autre, c'est que l'Internet s'adresse au grand public, et puis l'intranet plutôt au réseau, c'est-à-dire aux gens qui sont les actifs de notre structure. Voilà. Et puis, pour être une association représentative, outre ces actions-là, cette présence, il est prévu également qu'on puisse faire, ça c'est assez original, des actions en justice. C'est-à-dire que le droit de la consommation, la protection des consommateurs, s'est construit au fil du temps à partir de procès, de revendications de droits que les consommateurs ont faites progressivement au fil de leurs soucis, de leurs problèmes, petits ou grands. Les associations de consommateurs les ont aidés à structurer ces problèmes, à les présenter en justice et à faire progresser le droit. Alors, un petit exemple de ce type d'action, c'est ce que la CNAFC a fait, une action qui a été introduite il y a maintenant 5 ans et qui vient de se résoudre seulement à la fin de l'année 2020, c'est l'affaire Glidden. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire ou si même vous avez eu connaissance, mais voilà ce qui s'est passé. Glidden, c'est un site marchand américain qui proposait, mais très très ouvertement, avec des publicités dans la rue, qui proposait donc l'organisation de rencontres extra-conjugales. Alors voilà ce qu'en dit la Confédération. Depuis 2015, la Confédération était en procès contre ce site et après avoir perdu en première instance et en appel, la CNAFC attendait l'arrêt de la Cour de cassation avec espoir et intérêt. Mais malheureusement, cette dernière a conclu en décembre dernier un rejet du pourvoi des AFC. Alors, ce que dit la Confédération, c'est que inlassablement à chaque étape de cette procédure, les AFC ont interrogé en fait la société tout entière sur cette question du commerce de l'infidélité et sur l'affaiblissement de l'institution du mariage, en totale contradiction avec le Code civil qui prévoit que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Et la question qu'on se posait, c'est effectivement comment un maire peut-il solennellement rappeler aux nouveaux époux cette obligation, alors que sitôt franchi la porte de la mairie, une affiche publicitaire pourrait les inciter à la transgresser. Alors, donc il nous apparaissait qu'il y avait là une contradiction tout à fait formelle, et donc un service marchand qui, en toute impunité, faisait cette offre commerciale. Donc ce que nous disions aussi, c'est que derrière la légèreté apparente du commerce de Glidden, il y a des époux, des enfants et des familles qui souffrent. Il y a aussi la remise en cause d'une institution sociale structurante au moment même où le tissu social se déchire de toutes parts. Pour motiver sa décision, la Cour de cassation a considéré que Glidden, à travers le seul prisme de la liberté d'expression, ignorant ainsi celui du mariage et des obligations qui en découlent. Vous savez que la liberté d'expression est devenue quasiment, si j'ose dire, un dogme dans notre société, et que ça couvre des dérives, ou en tout cas des situations qu'on a du mal à comprendre. Alors, ça me permet de rappeler quelques positionnements concernant la consommation. La société de consommation dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous vivons, elle repose sur trois pratiques qu'on diagnostique et qui donnent lieu à un tas d'abus contre lesquels justement l'association de consommateurs est instituée pour les combattre. Ça m'amène à dire un petit peu, une association de consommateurs, après avoir dit un peu qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert justement à armer le consommateur, à l'avertir, à l'informer. Une fois que ce droit s'est mis en place progressivement, il s'agit de le faire respecter. Alors, les trois moteurs de la société de consommation contre lesquels nous battons, on peut utiliser ce mot, c'est l'obsolescence programmée. Vous savez bien cette technique qui consiste à rendre inopérants les produits et services services qu'on vend à les démoder, à faire en sorte qu'ils ne fonctionnent plus après une utilisation plus ou moins longue ou plus ou moins courte, devrais-je dire. Ça, c'est un vieux truc qui est admis traditionnellement parce que, disait-on, et on le dit encore, ça fait marcher le commerce. Voilà. Alors si ça fait marcher le commerce, eh ben, tout va bien, parce que ça fait de l'emploi, parce que ça fait de l'activité, etc. Et on oublie tout à fait, on ne tient pas compte du fait que ça génère du gaspillage, que ça génère de l'énergie consommée hors de propos, tout ça n'est pas pris en considération. Et on commence maintenant à renverser la vapeur, à se rendre compte de ses excès et qu'on ne peut pas continuer à avoir une société qui fonctionne comme ça. Le deuxième axe utilisé par la société de consommation, c'est le crédit. La société de consommation s'est largement développée sur l'accès facile au crédit. Bien sûr, quand c'est un crédit d'équipement, c'est plutôt sain. Quand il s'agit d'investir et de s'équiper pour se développer, c'est très bien. Mais quand il s'agit simplement de prendre du crédit pour consommer, c'est-à-dire pour détruire, pour utiliser, on n'a pas de retour sur investissement, en quelque sorte. Et donc, le crédit à la consommation, qui s'est trop largement développé et qui est arrivé à créer des situations de surendettement, comme on le sait bien, ça aussi, c'est très malsain. Et puis, le troisième axe de la société de consommation, qui est très critiquable, c'est la publicité. Et donc, l'utilisation à tout va de la publicité dont l'objectif n'est pas d'informer le consommateur, n'est pas de donner des informations et des outils pour consommer mieux, plus utilement, etc. Mais c'est très ouvertement et très directement, la publicité, un instrument de séduction. C'est fait pour que les consommateurs aient envie d'acheter quelque chose, qu'ils en aient besoin ou pas. Ça n'entre pas en considération. Là aussi, c'est un truc pour faire marcher le commerce. Alors là aussi, un autre exemple de notre action, de ce que nous avons pu faire en matière de publicité, c'est en décembre 2016, par exemple, on a connu l'adoption d'une loi stipulant l'interdiction de publicité sur les chaînes publiques de télévision pendant les programmes destinés aux enfants de moins de 12 ans. Voilà, ça c'est un texte qui a été porté par la CNAFC. On a fait un communiqué de presse à cette occasion. L'initiative venant d'un sénateur avec qui nous avons mené cette action pour convaincre les sénateurs d'une manière générale de l'utilité de cette mesure. Ils l'ont voté, ensuite c'est passé à l'Assemblée nationale, ça a été validé et c'est devenu la loi et c'est entré en vigueur en janvier 2018. Donc depuis cette date, la publicité destinée aux enfants de moins de 12 ans sur les chaînes publiques est interdite. Alors, il faut quand même moduler ça en disant que en termes d'audience pour le public infantile, les chaînes publiques n'arrivent qu'en cinquième position au mieux. Donc, c'est pas une victoire extraordinaire, mais c'est un petit pas, comme on dit. C'est une manière d'intervenir dans le débat public et de montrer quelle est l'utilité des associations de consommateurs. Alors, une autre utilité, c'est que l'association de consommateurs, elle agit un peu sur deux plans. Sur ce que j'appellerais la macroéconomie, c'est-à-dire sur le plan de la définition et de l'application des politiques publiques, et puis un autre plan qui est celui de la microéconomie, et là, c'est agir sur les comportements des gens. Alors, pour reprendre la macroéconomie, les politiques publiques, là, nous avons un bon moyen d'agir, c'est notre participation à toutes les institutions. Les institutions qui construisent ces politiques publiques et qui les font en dialogue avec ce qu'on appelle la société civile. Donc, comme je faisais le parallèle avec les syndicats tout à l'heure, là aussi, nous sommes sur le même plan que les syndicats, en dialogue avec la puissance publique, avec les opérateurs économiques, pour construire ces politiques publiques. C'est par exemple, on fait partie de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Voilà. Alors, cette instance, elle s'occupe de la mise en place de la 5G, par exemple, qui est en train de se faire, comme vous le savez bien. Elle s'occupe des questions de couverture du territoire pour l'accès à la téléphonie mobile, etc. Voilà. On fait partie du Conseil supérieur de l'énergie. C'est très important à notre époque où on parle beaucoup de développement durable, bien sûr. On fait partie du Conseil national de l'alimentation. Je ne veux pas vous dire l'intérêt qu'il y a à faire partie des autorités de régulation de ce domaine. On est dans le comité français de l'accréditation. Et là, on s'occupe de tout ce qui est normalisation. On est au Conseil national des opérations funéraires. On va vous en parler tout à l'heure. Et puis, surtout, on fait partie du Conseil national de la consommation. Et le Conseil national de la consommation, il anime des groupes de travail. À ce titre-là, on a récemment fait un travail important sur ce qu'on appelle le yield management. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Moi, j'ai appris à cette occasion que ce qu'on appelle yield management, c'est la régulation des prix en fonction de la demande. C'est le fait que le prix du billet d'avion augmente à certaines périodes de l'année, et surtout en fonction du nombre de personnes qui voudraient prendre un billet. Plus il y a de gens, plus il y a de gens pour le faire, et plus les prix montent. C'est comme ça quand vous prenez un avion, il n'y avait pas deux personnes qui avaient payé le même prix, parce que chaque circonstance, chaque cas particulier faisait l'application d'un tarif particulier. Voilà, ça c'est le management par le prix en fonction de la demande, en fonction de l'époque, etc. Donc, il y a eu un groupe de travail là-dessus pour essayer de réguler ces pratiques. Et puis, enfin, on vient de faire un travail sur les contrats auto-écoles, pour donner un autre exemple, parce que les auto-écoles, maintenant, elles travaillent sur des sites Internet. C'est-à-dire qu'on peut, ça paraît curieux, mais commencer à passer son permis de conduire à distance, en quelque sorte. Alors, naturellement, il ne s'agit que de faire la partie théorique par ce moyen-là, mais ça commence à se développer pas mal, et donc c'est en contradiction avec les habitudes qu'on avait. Voilà. Alors, sur le plan pratique, je vais peut-être passer la parole à Laurent Valu, parce que si moi, je suis chargé de la consommation, plutôt sur le plan institutionnel, Laurent, lui, il s'occupe de l'animation de réseaux, et c'est bon, bien sûr, essentiel dans une activité comme la nôtre. Voilà, Laurent, je te passe la parole.
Merci. Effectivement, la défense des consommateurs, ça se passe aussi au niveau individuel, au niveau des familles. Alors, tous les chrétiens savent que des mouvements comme le Secours catholique ou des organismes tels que Emmaüs apportent leur aide à tout le monde. Eh bien, nous agissons de la même manière. C'est l'application des paraboles du bon samaritain et des talents par Saint Jean Chrysostome. Voilà. Nous apportons en effet des conseils et de l'aide à tous ceux qui estiment avoir été floués dans une relation commerciale avec un professionnel. Voilà. Nous, les AFC, nous sommes ainsi le seul mouvement chrétien officiellement reconnu par l'Église et par l'État pour assurer ce service. Nous sommes, vous savez, un mouvement de la pastorale familiale. Nous avons obtenu, donc, depuis 1987, comme on vous a dit tout à l'heure, je crois, déjà, la reconnaissance en tant qu'une association agréée de représentation et de défense des consommateurs. Alors, comment s'organise au quotidien cette défense des consommateurs? Eh bien, elle s'effectue dans des antennes à travers toute la France. Dans ces antennes, de dévoués bénévoles des AFC vous accueillent aux heures et jours de permanence qu'ils assurent. Cela se passe généralement dans des locaux associatifs appartenant à la mairie et mis à disposition par elle, ou bien dans des locaux paroissiaux, ou encore au siège de l'UDAF, Union départementale des associations familiales. Je ne résiste pas au plaisir de vous signaler la belle motivation de certains qui assurent même une permanence sur un marché. Je donne un exemple, ça se passe à Sabre, dans les Landes, où il y a un marché tous les 15 jours, et il y a une permanence, voilà, dans laquelle on peut accueillir les gens qui n'ont pas Internet, n'ont pas toutes les commodités, mais peuvent rencontrer une personne qui va les aider. Alors, je pense que je vais aussi beaucoup vous étonner en vous disant que la plupart de nos bénévoles dans ces antennes ne sont pas des juristes confirmés. Ce sont des personnes, certes dotées d'empathie, de bon sens, bien organisées pour bien collecter tous les éléments du dossier. Mais ça ne suffit pas, vous allez me dire, pour rédiger un courrier bien étayé auprès d'un professionnel peu scrupuleux. Et vous avez raison. Mais voilà, ils disposent de deux aides. Le premier s'appelle l'INC. L'Institut national de la consommation. C'est une émanation de Bercy, notre ministère des Finances, et il est dédié à la défense des consommateurs. Et ils tiennent à jour un site dont la lecture attentive permet de trouver des bons éléments de réponse pour peut-être 80 ou 90% des cas qui sont soumis par les plaignants. Bon. Et en plus de cette INC, il existe leur filiale, qui a un nom un petit peu barbare, de CTRC, Centre Technique Régional de la Consommation. Il y en a un par province, enfin par région on dit plutôt. Et dans ces CTRC, vous trouvez des juristes dont le rôle est exclusivement de parfaitement connaître le droit de la consommation et d'aider nos bénévoles. Voilà, parce qu'ils peuvent être un peu hésitants dans la formulation du courrier qu'ils vont adresser aux professionnels, donc ils soumettent leur brouillon aux juristes du CTRC, qui leur corrige, qui les aménage, et qui fait qu'on fait un courrier qui après pèse vraiment. Voilà. Et grâce à cela, nous nous rendons compte que nos bénévoles ont un taux de réussite de 70% auprès des professionnels qui, voyant arriver une lettre bien tournée, émanant d'une association reconnue, agréée, se décident assez souvent, non pas à reconnaître explicitement leur tort, mais décident quand même de nous faire une ristourne exceptionnelle. Donc voilà, donc finalement on obtient gain de cause pour notre plaignant. Bon. Bien entendu, l'anonymat des consommateurs qui viennent à nous est toujours rigoureusement préservé. Alors, nous sommes tenus à demander aux gens qui demandent notre aide et qui, allant au-delà du simple conseil, de leur demander une adhésion aux AFC. Pourquoi ? Parce que cela engage quand même des frais de notre part. On doit envoyer des lettres recommandées, on doit faire des photocopies, on doit peut-être contribuer à la location du local que nous utilisons. Voilà. Et parfois, vous allez me dire, mais si vous avez des visiteurs qui, par exemple, sont d'une autre confession que la nôtre, ça peut être un peu compliqué. Alors on leur dit non, on a une bonne solution. On leur fait prendre une toute petite mini-adhésion et on ne va pas leur envoyer tous les documents autres qui viennent de notre mouvement. Mais on leur fait prendre cette mini-adhésion pour être en règle vis-à-vis de la corporation des avocats qui pourrait trouver qu'on leur fait une concurrence injuste. Or, nous avons le droit d'apporter cette aide à nos adhérents. Voilà. Alors, je voudrais revenir sur l'admiration que j'ai pour ces bénévoles qui acceptent de donner de leur temps en accueillant ces plaignants et à traiter leurs dossiers. Nous avons tous des soucis personnels que nous devons résoudre. Alors, se rajouter les ennuis des autres, c'est vraiment beau de leur part. Bon, j'apporte deux précisions. D'une part, cette tâche peut être accomplie par une équipe de deux personnes. Une qui a plus de disponibilité en temps et qui donc reçoit les plaignants à des rythmes réguliers, donc il assure les permanences. Et puis un autre qui, lui, va traiter les dossiers. On est un petit peu dans la configuration d'un restaurant où vous ne voyez que le serveur, mais vous ne voyez pas le cuisinier qui, en fait, fait quand même la plus grosse part du travail. Voilà. À ce sujet, je voudrais préciser que notre maillage national est un peu lâche, malheureusement, et que nous recrutons. Alors, si vous étiez intéressé par cette activité, eh bien, n'hésitez pas à m'appeler ou à m'écrire. Alors, mon mail, c'est laurent.valu, W-A-2-L-U-T, @gmail.com. Et mon téléphone, 01 42 83 81 37. Voilà. Alors, je voudrais parler encore, comme on vous l'a dit tout à l'heure, d'un secteur sur lequel nous sommes un peu en pointe. Quelquefois, c'est dommage qu'on soit seul à le faire, mais voilà, je vous explique. C'est le secteur du funéraire. Parce que oui, on est aussi dans le funéraire. Vous voyez qu'on touche à énormément de corps de métier. Il y a des professionnels aussi dans le funéraire et on doit travailler dans ce domaine aussi. Bon. Vous savez tous qu'il y a des prêtres, des diacres et des équipes paroissiales en charge des obsèques qui font un travail formidable au moment du décès de nos proches. Ce qui est moins connu, c'est que les AFC effectuent aussi un gros travail dans ce domaine, en étant la seule association familiale et de défense des consommateurs à participer régulièrement à tous les groupes de travail du CNOF. On vous a évoqué ça tout à l'heure, CNOF, Conseil national des opérations funéraires, qui, sous l'égide du ministère des collectivités locales et dans les locaux du ministère de l'Intérieur, regroupe tous les professionnels des pompes funèbres, avec donc l'administration, mais aussi avec les syndicalistes et avec les représentants des communes. Voilà. Et on va traiter de tas de dossiers, comme j'en donne un en ce moment, par exemple, vous allez être surpris. En ce moment, vous pensez qu'on peut seulement inhumer une personne ou la crématiser. Bon, on n'a pas l'idée qu'il y ait d'autres formules. Eh bien, si, il en existe d'autres de par le monde, et elles sont en application dans beaucoup d'autres pays. Et voilà, il peut y avoir des industriels qui frappent à la porte et qui ont envie de proposer une troisième ou une quatrième formule. L'aquamation, l'humusation, etc. Des mots qui ne vous disent absolument rien en ce moment. C'est pas trop le temps de vous raconter ça dans le détail. Mais voilà, ça existe. Et donc, il faut savoir si, au point de vue chrétien, c'est acceptable ou pas. Est-ce que les conférences des évêques de ces pays les ont validées ou les récusent? Bon, voilà un travail qu'on y fait. Mais surtout, je voudrais vous parler de ces 12 derniers mois qui ont été particulièrement difficiles. Vous vous rendez bien compte que au tout début de l'arrivée du coronavirus, les fonctionnaires, malheureusement, manquaient cruellement de masques, de gants, etc. pour pouvoir travailler. Et l'État était dans une aussi impréparation à ce genre de crise manifeste. Et on a été quand même assez choqués de voir que, alors que la surmortalité qui est arrivée, était trois fois inférieure à celle que nous avions vécue pendant la canicule de 2003, ben les conséquences n'avaient pas été retenues. Et de ce fait, il a à nouveau été obligé d'utiliser des dépositoires, c'est-à-dire des morgues temporaires à Rungis et dans d'autres lieux, auxquels, et du coup, les familles ne pouvaient pas accompagner leurs défunts, n'avaient même pas le droit de le voir une dernière fois avant la mise en bière. Donc on nous a imposé des situations vraiment inhumaines et nous avons essayé de nous battre pour que les législations temporaires qui étaient prises le soient le plus humaines possible. Et voilà, c'était extrêmement difficile. Et puis on a même vu des choses épouvantables qu'ont vécu certaines familles. Par exemple, on leur a imposé pour aller plus vite et des crémations au lieu d'inhumation. Et aussi, il y a des cas où des pompes funèbres ont refusé de faire passer le corbillard et le cercueil dans une église, pour avoir une cérémonie. Voilà. Donc de tout ça, ça a été des moments très difficiles pour nous, parce qu'on avait à vous défendre, et il y avait beaucoup d'autres intérêts qui étaient aussi en jeu, et on n'était pas trop peu nombreux pour faire valoir notre point de vue. Voilà.
Laurent Valu et Nicolas Revenu, nous avons une auditrice qui souhaiterait vous poser une question. Il s'agit de Monique. Monique, c'est à vous.
Bonjour messieurs, merci beaucoup pour les renseignements que vous nous donnez tous les auditeurs et qui sont très précieux. Personnellement, là, en ce qui concerne la dernière intervention de monsieur Laurent, je crois, il a parlé des pompes funèbres. Et justement, moi, il y a quelques années, je dois vous dire que j'ai 82 ans. Donc, il y a quelques années, j'avais pris un contrat obsèque et sur ce contrat, j'avais coché la case inhumation, puisque nous avons un caveau familial. Ces pompes funèbres-là m'ont renvoyé le contrat. C'était tout informatisé, comme aujourd'hui. Et en mettant que j'avais coché la case crémation. Moi, je ne veux absolument pas faire une crémation. Alors, j'ai écrit à nouveau et j'ai dit que c'était une erreur, que j'avais un caveau familial, que je voulais ne pas être incinéré. Ils m'ont répondu à nouveau qu'ils avaient bien compris que je voulais être incinéré. Alors moi, j'en suis là et maintenant, ça se passait il y a une dizaine d'années et maintenant, j'ai 82 ans et j'y pense de plus en plus et je ne veux absolument, dans le contexte actuel de surcroît, je pense qu'ils ne se poseront pas de problème. Et moi, que dois-je faire? Est-ce que vous pouvez intervenir ou est-ce que je peux, grâce à votre association, régler ce problème?
Tout à fait. Alors là, n'hésitez surtout pas, parce que c'est vraiment un cas que nous serons tout à fait désireux de vous aider. Donc vous pouvez nous écrire, nous envoyer le dossier que vous avez, ou prendre mon numéro de téléphone. Dans la journée, hein, vous me rappelez dans la journée.
Alors bon, écoutez, je vous appellerai et nous essaierons de solutionner ce problème qui me tient vraiment à cœur, qui m'inquiète même, voyez-vous.
Tout à fait.
Voilà. Et je vous remercie beaucoup, messieurs. Je laisse la place à quelqu'un d'autre qui en a peut-être besoin également. Merci, bonne journée, en union de prière.
Merci, oui, moi aussi, nous aussi.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir, Monique, au revoir. Alors, pas d'autres questions d'auditeurs. Est-ce que vous souhaitez peut-être ajouter quelque chose pour conclure cette émission?
Oui, moi je voudrais parler un petit peu de la consommation responsable, qui est l'angle sous lequel notre conseil d'administration, notre présidente en particulier, oriente l'activité consommation de notre association de manière plus marquée. Consommation responsable, c'est pas nouveau, c'est pas très original non plus. Ça situe bien l'action consommation en accompagnement de ce qu'on appelait depuis déjà quelque temps le développement durable. Voilà, donc c'est un axe d'action, un angle qui rencontre beaucoup d'intérêt, notamment de la part des jeunes à l'heure actuelle. Et donc ça nous paraît très important de bien nous affirmer dans ce domaine-là, en particulier depuis l'encyclique Laudato Si, qui nous fait partager largement le constat des atteintes graves causées à l'environnement et donc à toute la responsabilité de la consommation dans ces pratiques à la limite déviantes, en tout cas malsaines. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, Laurent Valu et Nicolas Revenu, pour ce temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Et puis, peut-être à bientôt.
Entendu.
Merci beaucoup. Au revoir.
Oui, n'hésitez pas à faire appel à nous. Au revoir.
Au revoir.
Merci.